Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde l'alimentation sous toutes ses formes et qui en décrypte tous les enjeux. Quelles leçons tirer de la façon dont nous avons mangé pendant cette étrange année 2020? Si le premier confinement imposé par la situation sanitaire au printemps a permis aux circuits courts de se développer et aux produits bio d'occuper une place toujours plus grande dans le panier des consommateurs, la fin de l'année a également été marquée par la commercialisation à Singapour de nuggets de poulet entièrement fabriqués en laboratoire. Ces deux voies sont-elles contradictoires ou complémentaires? Est-ce que l'une s'imposera à nous plus que l'autre? En d'autres termes, que mangerons-nous en 2021?
La viande in vitro est conçue à partir de cellules souches issues des muscles de l'animal. Des cellules ensuite cultivées dans des bioréacteurs pour obtenir de la chair.
Nous n'avons plus besoin de défricher des forêts pour faire des terres agricoles. Nous n'avons pas besoin de nous soucier des déchets. Nous produisons simplement de la viande pure et propre.
Et une viande servie dans ce restaurant huppé de Singapour ce week-end, une première mondiale et gourmande.
Larves, chenilles ou sauterelles, faites votre choix. Car ces petites bêtes ont vocation à finir dans vos assiettes.
Depuis quelques années, les algues se sont invitées dans nos assiettes européennes et c'est tant mieux car elles ont de multiples bienfaits. Pour commencer, elles peuvent contenir jusqu'à 70% de leur poids en protéines. À titre de comparaison, la viande de bœuf n'en possède que moins de 30%.
What is the secret of Soylent Green?
Des algues, des insectes, de la viande de synthèse, mais aussi toutes sortes de produits naturels en circuit court. Pour discuter de ce que nous mangerons en 2021, deux invités. Raphaël Aumont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la chaire cuisine du futur à l'université Saclay, Paris-Saclay, cofondateur avec Thierry Marx du Centre d'innovation culinaire et co-auteur avec Marina Carrère-Dancos et Benoît Thévenet de Halte au plat industriel, un livre qui est sorti à toute fin de l'année 2020, paru aux éditions La Martinière. Et puis deuxième invité, Yuna Chifolo, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, co-directrice de l'enquête sur nos systèmes alimentaires intitulée « Manger au temps du coronavirus », une enquête parue aux éditions Apogée. Alors évidemment, première question qui s'impose à tous les deux, comment abordez-vous cette année après l'étrange année que nous venons de quitter? Est-ce que la crise que nous connaissons encore, que nous avons connue l'année dernière, a ou continue de changer notre regard sur la nourriture? Yuna Chifolo d'abord.
Bah écoutez, en fait, on aborde cette année justement avec optimisme, au sens où la crise, elle a accéléré un certain nombre de tendances, de mutations qui étaient en cours, de mutations vers des produits locaux, des produits plus naturels, une alimentation plus végétale. Alors même si la crise a quand même un peu mis l'écologie entre parenthèses, hein, parce qu'on a vu réapparaître du plastique notamment, hein, pour emballer les produits, pour autant, on est justement sur une tendance à savoir que pour les produits frais, pour des produits basiques, eh bien, on va se tourner plutôt vers les producteurs, vers les circuits courts, avec cette reconnexion avec la nature qui finalement va contrecarrer un certain nombre justement de tendances high-tech, hein, dont vous avez parlé en introduction. En tout cas, avec cet équilibre qui est difficile à trouver, mais qui se construit et qui nous donne justement plein d'optimisme, avec aussi beaucoup de solidarité pendant la crise, des alliances entre voisins, entre amis, au sein d'un même quartier, qui ont su ne pas oublier les personnes plus vulnérables, les personnes aussi qui pouvaient avoir des moments difficiles, avec des incertitudes vis-à-vis de leur emploi. Donc voilà, donc c'est aussi des actions collectives et plus de produits frais, plus de produits locaux et manger à plusieurs, faire ses courses à plusieurs. Donc voilà, c'est les tendances fortes qui nous semblent justement prometteuses aujourd'hui.
Et qui se sont dégagées tout au long de l'année, parce qu'on avait le sentiment que ce que vous décrivez là, c'était plutôt issu du premier confinement, mais que, disons, dans la deuxième moitié de l'année, les choses étaient rentrées dans l'ordre, c'est-à-dire tout le monde était retourné au supermarché, surtout avec la fermeture des petits commerces, Yuna Chifolo.
Sauf que ce qu'on a appris quand même pendant le premier confinement, c'est que finalement, par exemple, il y a eu toute une tendance autour de faire du pain à la maison, se réapproprier son alimentation, faire la cuisine, bah, c'est pas si compliqué. Alors, il s'agit pas de faire des plats 3 étoiles tous les jours, mais râper une carotte ou simplement cuisiner des produits basiques, bah, ça prend un peu de temps, mais pas tant que ça. Donc, c'est vrai qu'on avait plus de temps pendant le premier confinement. On a surtout eu du temps pour réfléchir, pour se poser des questions, et dans ce monde un peu bousculé, l'alimentation quand même c'est un repère face à des incertitudes. Bah, manger, savoir ce qu'on mange, savoir d'où ça vient, le cuisiner soi-même. Donc voilà, tout ce qu'on a appris n'a pas à laisser des traces. Et même si la vie a repris son cours, eh bien les producteurs en témoignent. Ils ont quand même eu des nouveaux clients. Alors certes, c'est retombé. Mais en même temps, comme les producteurs ont fait des efforts, ont rendu l'accès à ces circuits plus facile avec du click and collect, avec du drive aussi. Donc les circuits courts, c'est pas du tout du passé, c'est aussi très moderne. Ça sait jouer de la modernité et donc s'adapter justement aux contraintes des uns des autres. Donc il y a maintenant, c'est plus facile quand même d'acheter dans ces circuits, aussi parce que les collectivités aident à ça. Et donc on a quand même justement profiter de ce premier confinement, de ce moment de réflexion, pour que maintenant ça puisse s'inscrire davantage dans le quotidien.
Raphaël Homo, comment abordez-vous l'année? Comment réagissez-vous à ce que vient de dire Yuna Chifolo? Partagez-vous son optimisme?
Oui, alors tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Optimisme, moi, ça me va très bien parce que voilà, il faut faire preuve d'optimisme.
De toute façon, on en a besoin. Hein, oui.
On en a besoin, voilà, mais on voit beaucoup dans les réseaux sociaux des gens qui disent « Allez, abat 2020, on oublie ». Mais il faut pas oublier, en fait. Il faut apprendre de ses erreurs. Et ça, c'est vraiment une démarche scientifique. C'est-à-dire, on regarde ce qui s'est passé. Alors, c'est sûr, c'est dur. On a vécu tous des épreuves très compliquées. Mais il faut apprendre de ses erreurs. Et finalement, ça a accéléré, comme ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que ça a permis d'anticiper, d'accélérer les choses. Alors, bonnes ou mauvaises. Mais il faut retenir, du coup, les bonnes choses. Et effectivement, se retourner vers sa cuisine. Remplacer la cuisine, vraiment la pièce au centre de la maison, ben ça c'est quelque chose d'absolument génial finalement, parce que on a appris à se détourner un peu des produits tout près par facilité. Souvent voilà, on sort du travail, on achète un plat tout près, on le met 2 minutes au micro-ondes. Sauf que quand on prend un peu le temps, on lit les étiquettes et on se dit waouh, je suis en train de manger quand même un plat qui contient 40 ingrédients dont 12 que je ne connais absolument pas le nom, des additifs absolument infects ou inconnus, et donc bah on veut plus ça. Et donc ça c'est bien, parce que du coup on va refaire soi-même. Et ça c'est ce qui s'est passé vraiment dans le premier confinement. Les gens ont été très loin, ils ont été jusqu'à faire leur propre levain et leur propre pain, ce qui est quand même formidable. Mais à des choses plus courtes, tout à l'heure on parlait de carottes râpées, bah oui, c'est vrai que même des salades toutes prêtes, eh ben on va arrêter d'acheter ça, on va éplucher 3 carottes, on va faire son céleri rémoulade, on va faire sa mayonnaise, c'est des petites choses toutes simples. Mais voilà, donc se réapproprier la cuisine, ça c'est des super des belles choses qu'il faut garder. Et puis travailler en local, effectivement, des circuits courts, moins de déchets, enfin il y a plein de belles choses comme ça à anticiper pour cette année 2021.
Alors Yuna Chifolo nous disait que ça n'était pas un vœu pieux, que ces tendances étaient confirmées par l'enquête que vous avez menée à plusieurs, Yuna Chifolo. Malgré tout, j'insiste un peu dans la deuxième partie de l'année 2020, et on va évidemment passer à 2021, mais très vite, mais on a aussi assisté à l'augmentation de l'insécurité alimentaire, et donc à une ruée sur les produits peu cher. Alors oui, certains faisaient du levain, oui, certains allaient faire leurs courses chez les producteurs locaux dans un premier temps, mais quand même, avec l'accentuation de la pauvreté et de cette insécurité alimentaire, les choses ont un peu changé en fin d'année. N'est-il pas, Yuna Chifolo?
Bien sûr, et ça c'est l'autre tendance très forte de la crise. Cette précarité alimentaire qui existait, même si on la renvoie toujours aux pays du Sud, mais non, des gens ont faim en France, ou en tout cas ne mangent pas suffisamment à leur faim, ou ne peuvent pas justement acheter ce qu'ils souhaitent. Donc cette précarité alimentaire, elle touche des nouveaux publics, justement ceux qui s'en sortaient à peine ou tout juste, et qui ont été projetés finalement aussi dans ces situations d'insécurité. Alors, il y a bien sûr l'aide alimentaire, hein, donc qui est malheureusement la solution d'urgence qui perdure, qui a été très sollicitée. Là aussi, avec quand même des choses qui ont bougé, puisque par exemple, les collectivités ont su faire l'alliance avec des producteurs, alors c'est pas justement des producteurs qui étaient en circuit long, et qui étaient en difficulté aussi parce que l'export était bousculé, parce que les rayons à la coupe, par exemple, des supermarchés avaient fermé. Donc on a un certain nombre de producteurs de volailles, de fromages fermiers, enfin un certain nombre de producteurs qui pouvaient être en difficulté en circuit long. Et donc les collectivités ont acheté à ces producteurs pour activer cette double solidarité vis-à-vis des producteurs d'un côté, vis-à-vis de ces nouveaux consommateurs en difficulté de l'autre. Donc, et ça, c'est des choses aussi qui laissent des traces, avec cette idée que finalement, parce que l'aide alimentaire, au départ, c'est on achète partout, n'importe où, au moins 10 ans, eh bien, on peut faire jouer cette solidarité là aussi pour acheter localement, pour ensuite en faire bénéficier des produits plus frais, plus locaux aussi, à des gens qui se retrouvent en difficulté.
Alors, Raphaël Aumont, est-ce que dans ce contexte, la nouvelle selon laquelle, alors c'était au tout début du mois de décembre, la nouvelle selon laquelle un restaurant à Singapour a donc autorisé de vendre la viande de synthèse, en l'occurrence des nuggets de poulet issus de la culture cellulaire animale, entre en contradiction ou bien est une voie complémentaire selon vous, vous qui travaillez à la cuisine du futur?
Alors d'abord, je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit avant, juste rebondir, faire soi-même peut revenir aussi beaucoup moins cher. Et ça peut être une solution aussi effectivement de contre la précarité. On a fait par exemple j'ai fait des calculs, faire un gratin dauphinois soi-même, ça revient à 3,50 € le kilo et j'y ai même compté l'électricité que ça coûte. Et quand vous achetez des plats industriels, parfois c'est beaucoup plus cher. Donc
ça dépend quand même peut-être de la patate que vous achetez quand même.
Exactement, évidemment, mais sans justement tomber sur le petit producteur local. Des fois, on va un peu loin, un peu bobo, machin, on achète effectivement 10 euros le kilo les pommes de terre, mais on achète des pommes de terre déjà bon marché, un peu de crème, un œuf, un peu de fromage, et ça revient pas cher. Et après, vous coupez ça en 6, en 8 parts, et vous mangez sur 2-3 jours. Donc faire soi-même, souvent, c'est quand même beaucoup moins cher que ce qu'on nous propose dans l'agroalimentaire.
Alors maintenant cette viande de synthèse.
Pour cette viande
de synthèse. Avec quel œil la regardez-vous?
Voilà. Alors effectivement, au laboratoire à Orsay, nous on travaille sur l'innovation et on essaye d'anticiper les tendances. Et comme tout labo de recherche, moi je trouve quand même assez, je vais dire le mot peut-être formidable. Je sais pas si c'est, je vais me faire taper dessus, mais le fait de pouvoir fabriquer en laboratoire des fibres de protéines ou des fibres des tissus végétaux ou de protéines animales d'ailleurs les deux, c'est quand même déjà une réussite, une recherche, une avancée scientifique. Alors après évidemment il faut regarder les retombées et comment ça va être appliqué et mis après pour tout le monde en fait. Mais en soi, on peut pas déjà dire je suis contre ou je suis pour. Il faut laisser le temps à la recherche et après on regarde ce que ça donne. Ça c'est déjà un point général. La recherche ça prend du temps et donc il faut laisser le temps aux choses de se faire en laboratoire. Faut pas que ça aille trop vite et c'est pas contradictoire avec le fait de manger mieux, manger plus sainement, etc. Moi la seule précaution quand même ou information qu'il faut regarder, c'est ces protéines qui sont d'origine dans le laboratoire, qui sont artificielles. Il faut quand même savoir que il faut bien des réactifs de départ, des produits de départ. Et donc là, on peut se poser la question de savoir à partir de quoi on fabrique ces protéines, parce qu'il faut des sources de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, enfin d'azote. Et donc, est-ce que c'est des produits vraiment naturels? Est-ce que c'est des produits déjà un peu transformés ou des résidus de l'agroalimentaire? Est-ce que d'où ça vient, le produit de départ? Voilà, il n'y a pas de miracle. On peut pas dire j'ai une solution sans protéines, sans utiliser d'animaux, etc. Il y a bien une origine de tous ces réactifs. Donc, faut regarder d'où ça vient. Mais en soi, on peut pas directement bloquer tout ce qui est innovation et recherche.
Yuna Chifolo, Raphaël Aumont, vous êtes nos deux invités aujourd'hui pour parler de ce que nous mangerons en 2021. La question se pose aussi de comment nous allons le manger. Nous verrons cette question juste après la Madeleine par Matteo Caranta.
Des céréales, des graines, des trucs comme ça, je pense, beaucoup. Moins de viande, moins de poisson, de toute façon bientôt il n'y en aura plus. Ou alors ils seront nourris aux pneus, donc voilà, on n'aura pas très envie d'en manger.
Des produits issus de l'agriculture biologique ou des produits qui seront en circuit court.
Matteo Caranta, bonjour à vous.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Très heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2021 avec votre Madeleine. Qui donc avez-vous rencontré cette semaine ?
Eh bien, la Madeleine a reçu Frédéric Wiseman, icône du cinéma documentaire qui a signé plus de 40 films et qui pose toujours son regard sur des espaces sociaux ou des institutions pour en faire voir les ressorts et les enjeux de pouvoir qui s'y jouent. Prison psychiatrique, services sociaux, balais, bibliothèques ou dernièrement conseil municipal. Wiseman se faufile dans nos sociétés démocratiques et vous l'aurez compris, c'était pour moi un plaisir et un honneur de recueillir sa Madeleine qui nous a plongé dans un temps hanté supermarché, un temps pré-consumériste, bien loin des nuggets de laboratoire, une sorte de retour vers le futur pour inaugurer cette nouvelle année.
Mon Madeleine, quand j'étais enfant, c'est quelque chose que ma mère a préparé presque une fois par semaine, c'est la carotte avec le bœuf et les prunes. Tout était cuit ensemble pour très très longtemps et c'était absolument délicieux. J'ai oublié, c'est une sorte de ragoût. Chaque semaine, c'est souvent le vendredi soir, chaque semaine j'attends cet plat délicieux. Parce que souvent elle a commencé pour la combinaison de bœuf et carottes et prunes la nuit avant. Elle a cuit ça pour 3-4 heures la nuit avant et c'était réchauffé vendredi pour le dîner. Mais c'était l'odeur de bœuf avec les choses sucrées parce que les prunes sont un peu sucrées. Et aussi la combinaison des prunes et des carottes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'avais 11 ans, 41 quand la guerre pour l'Amérique a commencé, c'était après la guerre en Europe. Et il y avait les livres de rationnement et je suis allé souvent pour acheter des choses avec ma mère aux boucheries parce que c'était avant l'époque du supermarché. Et j'ai absolument adoré d'aller au boucher ou les gens qui les poissonniers ou les gens qui vendent les légumes parce que ma mère était très bonne comédienne. Et elle a fait des imitations de tous les gens que nous avons rencontrés. Et quand nous sommes rentrés à la maison, elle a fait des imitations. Et comme ça, j'ai eu un théâtre vivant à la maison. Et ma mère était très bonne cuisinière. Et j'étais jeune pendant les années 30, nous n'avons pas eu beaucoup d'argent. Mais on a toujours bien mangé. On n'est pas souvent allé au restaurant. Et c'est peut-être pour ça, comme soi-disant adulte, que je vais très souvent au restaurant.
Est-ce que vous...
C'est une des raisons que j'habite en France, parce qu'on mange mieux ici qu'en Amérique.
Voilà la Madeleine du cinéaste Frédéric Wiseman. Un grand merci à vous, Matteo Caranta. On continue d'ailleurs cette émission en forme de retour vers le futur avec nos deux invités, Yuna Chifolo, qui est directrice de recherche à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, et Raphaël Aumont, qui dirige la chaire Cuisine du Futur à l'Université Paris-Saclay. Raphaël Aumont, justement, dans votre centre d'innovation culinaire que vous avez cofondé avec le chef cuisinier Thierry Marc, vous travaillez sur les aliments du futur, mais les aliments du futur, ça n'est pas que la viande de synthèse. Vous trouvez que cette innovation a pour l'instant autant de points positifs que négatifs, et vous avez sûrement bien raison. Mais vous ne travaillez pas qu'à ça, vous travaillez à retrouver le goût des aliments, et justement pour plutôt développer le végétal. De quelle façon ?
Oui, tout à fait. Alors nous, on travaille pas du tout sur les viandes de synthèse, hein. Mais on travaille on essaie d'anticiper un petit peu les tendances. Alors soit sur des nouvelles textures. Là, on le voit bien d'ailleurs dans le reportage qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire, c'est des émotions avant tout. On mange du plaisir. C'est-à-dire la carotte. Là, on avait envie de la goûter. Cette carotte qui a cuit 4 heures, ça doit être hyper tendre. Donc c'est des textures confortables en bouche. C'est ça qui est passionnant. Et donc le végétal. Pourquoi c'est intéressant d'aller regarder dans ce végétal? Parce qu'il y a plein de belles choses à faire. C'est-à-dire que le monde végétal apporte aussi de nombreuses protéines, mais il faut le rendre gourmand, parce que effectivement la tendance 2021, c'est que le début, mais 2050, 2070, de moins en moins d'agriculture et de plus en plus de parts au végétal dans nos assiettes. Seulement, bah, il faut rendre gourmand ce végétal, parce que si vous prenez des brocolis cuits à la vapeur ou alors du chou ou des endives à l'eau, je comprends
que
ça fait pas toujours rêver. Et souvent, on place le végétal comme la garniture presque un peu obligatoire, alors qu'on se dit mais mais non, on peut cuisiner vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des protéines, il y a des sucres, on peut faire des réactions de Maillard, des caramélisations, des notes torréfiées, fumées, enfin, c'est passionnant de travailler le légume. Et donc, faut regarder ce qui se fait en Chine, ce qui se fait en Inde. Enfin, il y a plein de façons de bien cuire les légumes et de l'apprêter comme une viande, quelque part. Et donc, au laboratoire Orsay, avec effectivement Thierry Marx, on cherche à mieux cuire les légumes, mieux comprendre leur transformation. Il faut changer la texture parce qu'on n'est pas capable et on n'est pas apte, je dirais presque physiologiquement, à digérer par exemple un morceau de céleri cru ou des feuilles d'artichaut par exemple. Donc il faut cuire un légume, mais il faut juste le cuire sans abîmer les saveurs, voire même concentrer les saveurs. Donc on travaille par concentrer par le froid par exemple les saveurs. On développe la cryoconcentration, extraction du lycopène par exemple dans la tomate. Enfin voilà, donc on part vraiment des produits, mais on va trouver la physique pour essayer d'extraire au mieux les saveurs, les pigments, les vitamines et concentrer les goûts, parce que la cuisine c'est une affaire de bon goût. Voilà.
Et c'est aussi la question que vous posez de comment les cuire, comment oui. les travailler. C'est un véritable défi, Raphaël Aumont, les matériaux qu'on utilise. Tout à l'heure, Yuna Chifolo disait oui. bon, certes plus de végétal, plus oui. de produits frais observés en 2020, plus oui. de produits naturels, mais aussi plus de plastique. Grand retour des emballages plastiques. Mais vous travaillez sur des emballages comestibles et vous pensez aux casseroles de demain.
Voilà, alors on pense à la casserole de demain pour mieux cuire. Si vous voulez, quand vous regardez un peu l'état actuel, même toutes les recettes, souvent on fait bouillir. Faites bouillir et puis mettre les haricots verts, faites bouillir et puis mettre, je sais pas quoi, les tomates, les poireaux et tout. Mais en fait, rien ne cuit à 100 degrés. C'est beaucoup trop chaud pour les vitamines, pour les nutriments. Ça sent bon, vous savez, ça, on rentre dans la cuisine, toutes les vapeurs emmènent avec elles les bons arômes volatiles, très légers. Alors on se dit, ah oui, ça sent bon, mais qu'est-ce qui va rester dans mon assiette finalement? Les molécules qui n'ont pas voulu s'envoler. Donc c'est des parfums un peu lourds. Et donc on réfléchit pour concentrer les saveurs, garder tous ces arômes, garder l'eau aussi, c'est-à-dire qu'il y a un impact environnemental qui est important dans la cuisine, de cuisine durable, cuisine responsable. Donc ça, c'est un premier point. Arrêter de gaspiller, de nous vendre des plaques, par exemple, à 7000 watts, sachant que peut-être que 500 watts peuvent suffire avec une sonde thermique, par exemple, pour bien cuire un morceau de viande, bien cuire un poireau, etc. Et puis l'autre aspect que vous venez d'évoquer, effectivement, c'est la notion de déchets ou de coproduits alimentaires. Et on se rend compte, quand vous regardez, par exemple, je reviens sur ce poireau, par exemple, mais vous voyez la rigidité que peuvent avoir quand même ces fibres, ces tiges. Et on se dit, pourquoi on pourrait pas les tisser, les recomposer pour fabriquer des contenants, alors des récipients, des choses comme ça. Alors on travaille beaucoup avec Thierry Marx sur les algues, et notamment quand vous regardez la agar-agar, les algues, l'algue kombu, l'algue cantène, etc. au Japon, on a l'impression vraiment que ce sont et même en Bretagne d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller si loin, c'est comme des vrais bouts de plastique, comme des cuirs végétaux. Et donc on a déposé un brevet il y a un mois et demi d'ailleurs pour faire des emballages un peu comme des vous savez les mousses là quand vous achetez par exemple un kebab, c'est pas forcément très conseillé hein, mais un kebab c'est assez emblématique, c'est parce bon, qu'on travaille beaucoup avec bon. Les étudiants ça peut être très bon d'ailleurs, un vrai bon kebab, mais vous voyez le problème, c'est j'en discutais beaucoup avec mes étudiants, ils mangent ça en 5 minutes, on nous sert ça dans une boîte un peu en polystyrène expansé, cette boîte elle met 700 ans à se décomposer. Et on a mangé le produit en 5 minutes. Est-ce qu'on peut pas repenser des emballages pour demain, ou justement quand on parle de manger local, il y a peut-être pas besoin d'aller chercher un grand sac plastique ou des choses comme ça. On emballe, on capture comme ça dans une sorte de fibre à base de un sac à base d'algues. Alors on sait que c'est moins résistant à l'eau, moins résistant à la chaleur, mais pour la consommation qu'on va faire dans les 5 minutes qui viennent ou dans le jour ou les 3 jours au réfrigérateur, ça suffit. Et donc, on a développé un film, une sorte de cellophane, en fait, un film étirable à base d'algues, 100% biodégradable. Voilà. Et donc, c'est des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on peut travailler aussi, on travaille tout le produit. Et puis, la beauté de la recherche, c'est d'aller chercher un peu toutes les pistes. Il y a plein de portes qui s'ouvrent devant nous. On était parti sur une texture de tomate, puis on arrive sur le lycopène qui est un antioxydant. Puis, tiens, on se dit, tiens, ces fibres-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va réfléchir pour faire un emballage. Voilà. C'est s'inspirer de la nature, le biomimétisme. Et puis, ça, c'est quelque chose de passionnant.
Et puis, Raphaël Aumont aussi, évidemment, en lien avec nos temps modernes, l'adaptation à nos conditions de travail, par exemple, oui. puisqu'on est de plus en plus nombreux à manger chez soi en télétravail, à vouloir sans doute le faire de manière rapide. Et donc, vous repensez aussi les outils pour réchauffer les plats rapidement.
Ben oui. Oui, parce que c'est un ensemble. Donc effectivement, le télétravail, le développement aussi du tout ce qui est livraison à domicile, etc. Mais après, comment on réchauffe bien? Parce que une sauce, bah ça peut prendre un goût très vite de rance, ça peut déphaser. Le légume, il peut. On sait qu'au micro-ondes, c'est peut-être pas optimal. Donc on travaille sur ces nouveaux outils aussi, développer le four de demain sans avoir la grosse industrie. Hein, c'est-à-dire un four facile, mais avec une option de pression, une option de vapeur, une option des petites choses comme ça qui font qu'on va garder l'humidité, donc on va garder le moelleux. Enfin, vous voyez, des petites astuces comme ça, parce qu'on comprend, c'est toujours pareil, c'est-à-dire on se place, on essaie de comprendre le pourquoi des choses. Pourquoi ça cuit? Pourquoi ça brûle? Pourquoi ça prend un goût de frigo? Pourquoi ça... Voilà, c'est le pourquoi, pas le comment. C'est ça la beauté de cette recherche culinaire.
Et moi, je reviens au comment avec Yuna Chifolo, si vous me le permettez, Raphaël Aumont, parce que ce que nous disons là, par exemple du télétravail, de la cuisine chez soi, dit aussi une autre tendance, sans doute qui s'est confirmée, qui s'est accélérée en 2020, c'est l'individualisation des pratiques. C'est un peu le déclin de la commensalité quand même, ce qui se passe en ce moment. La fermeture des restaurants, le fait que nous, clients, consommateurs, sommes bien obligés de faire plus souvent à la maison, d'acheter peut-être tout fait parfois, mais de vouloir faire à la maison, mais souvent de manger seul. Est-ce que c'est une tendance que vous avez observée, Yuna Chifolo?
Alors évidemment, le contexte nous pousse à ça, mais pour autant, on a vu justement que pendant la crise, on échangeait du... Raphaël Aumont parlait du levain, on faisait son levain, on l'échangeait entre voisins, mais sans aller jusque-là, hein, mais c'est aussi échanger des recettes entre amis, entre voisins, avec des, y compris par SMS, y compris en mettant des petits mots dans les couloirs, les ascenseurs, pour essayer juste de dire tiens, j'ai fait un plat, partageons-le. Donc non, c'est justement, c'est ça qui est intéressant. C'est on a montré que y avait plein de secteurs qui étaient arrêtés, stoppés, et l'alimentation, c'était encore là le lieu, le secteur où il y avait de l'échange, de la solidarité, du partage, malgré les fermetures, malgré le confinement. Donc c'est ces mouvements, ce mouvement justement très du bas qui est peu ou pas vu, c'est tous ces mouvements informels qui aussi sont structurants et qui font que l'alimentation, c'est en effet entre expériences individuelles et aventures collectives. C'est aussi comme ça que les choses se passent.
Et alors, on arrive à la fin de cette émission. Il est 12h27 sur France Culture. Comme on dit, bonne année, bonne santé, et qu'on n'a jamais autant dit, je pense, autant pensé que cette année. On réfléchit aussi à la cuisine santé. C'est ce que vous faites, Raphaël Aumont, dans votre livre « Halte au plat industriel ». Vous êtes parti de plats industriels très consommés et vous avez imaginé des recettes pour les cuisiner soi-même. C'est un livre qui s'adresse par exemple aux étudiants qui habitent dans des chambres de 9 mètres carrés, qui ont une poêle et qui n'ont pas de four et qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent pour pouvoir faire leur repas eux-mêmes. J'invite donc les auditeurs et les auditrices qui ont le loisir de pouvoir cuisiner mais dans une poêle seulement et pas beaucoup de four à se reporter à ce livre formidable avec 80 recettes pour en finir avec les produits ultra transformés. Merci beaucoup à tous les deux, Raphaël Aumont et Yuna Chifolo. Yuna Chifolo, Manger au temps du coronavirus, votre enquête sur nos systèmes alimentaires apparue aux éditions Apogée. Quant au vôtre, Raphaël Aumont, il apparue aux éditions La Martinière. Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France avec l'équipe Roxane Poulin, Stéphanie Villeneuve, Matteo Caranta, Doria Zénine aujourd'hui à la réalisation et notre technicienne du jour, Élise Le. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.